VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 9 août 2016, en direct de Washington, Idrissa Sédoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
En République démocratique du Congo, des ONG demandent à la MONUSCO de retirer son soutien à la Commission électorale nationale indépendante.
Au Tchad, Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition, est convoqué à la police judiciaire aujourd'hui.
Burundi, le Comité des Nations Unies contre la torture s'inquiète d'éventuelles représailles contre 4 avocats qui ont fourni des informations au comité.
Les États-Unis ont demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer 4000 hommes supplémentaires à Djouba, capitale du Soudan du Sud.
Ici aux États-Unis, une sénatrice et 50 experts républicains de la sécurité nationale rejettent Donald Trump, le candidat de leur parti à la présidence.
Et ne manquez pas notre journal des Jeux olympiques ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Une coalition d'ONG congolaises a appelé la mission de l'ONU en République démocratique du Congo à retirer son soutien à la commission chargée d'organiser l'élection présidentielle, dont la tenue avant la fin de l'année est devenue improbable. Précision de Tatiana Mosso.
La MONUSCO doit retirer son soutien à la CENI, écrit cette coalition de 33 organisations de promotion et de défense des droits de l'homme. Pour ces organisations, la démarche actuelle de la CENI viole de manière flagrante la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution, adoptée le 30 mars, invite la CENI à publier un calendrier complet, révisé, couvrant la totalité du cycle électoral et exige le respect des délais fixés dans la constitution congolaise pour l'organisation des élections. La CENI a commencé à enregistrer des électeurs le 31 juillet dans une province du nord-ouest de la RDC. Ces opérations devront s'étendre dans les 25 autres provinces du pays et doivent durer 11 mois. En marge de sa visite en Ouganda, le président congolais Joseph Kabila a indiqué que la CENI publiera le calendrier électoral à l'issue de ses opérations d'enrôlement d'électeurs, soit pas avant fin juin 2017. Le climat politique se crispe chaque jour davantage, à mesure qu'approche la fin du mandat de M. Kabila, fixé au 20 décembre, et à qui la Constitution interdit de se représenter. Mais l'opposition soupçonne le chef de l'État de manœuvrer pour demeurer en fonction, quitte à reporter la présidentielle. Une décision de la Cour constitutionnelle prise en mai autorise en effet Joseph Kabila à rester à la tête du pays si ce scrutin n'était pas organisé dans les temps.
Le Comité des Nations Unies contre la torture a exprimé hier sa vive préoccupation au sujet des représailles signalées contre 4 avocats burundais menacés de radiation pour avoir fourni des informations au comité. Dans un communiqué publié hier, il a exhorté le gouvernement burundais à donner des garanties immédiates afin qu'aucun membre de la société civile ne soit soumis à des représailles pour avoir coopéré avec le comité.
Au Tchad, Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition et coordonnateur du FONAC, est convoqué à la police judiciaire aujourd'hui sur instruction du procureur de la République. Le motif n'est pas signifié, mais la convocation serait en rapport avec l'affaire de militaires présumés disparus en avril dernier, nous signale notre correspondant sur place. Hier, Idriss Déby Itno a prêté serment pour un cinquième mandat. Correspondance d'André Kodmajingar.
Idriss Déby Itno mesure la tâche qu'il attend.
En ce jour, nous venons de revêtir la charge suprême. Plus que jamais, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre à l'égard de l'ensemble des Tchadiennes et des Tchadiens, pris collectivement et individuellement, toute obéissance politique et confessionnelle confondue. Je suis en effet le président de tous les Tchadiens.
Professeur Ahmad Mohamed Hassan, ancien chercheur et politologue.
La campagne électorale et les élections ont été marquées par deux éléments extrêmement importants. C'est surtout la crise sociale qui a conduit à des emprisonnements, qui a conduit à une certaine question de privation de démocratie et de liberté, conduit le Tchad à un petit recul en matière de démocratie et de liberté. Et je pense que c'est un président qui annonce la tolérance, la paix et sa disponibilité pour une convergence de vues.
Une investiture coïncidant avec le mot d'ordre de la ville morte lancé par l'opposition. N'Djamena vit au ralenti. Est-ce le respect du mot d'ordre de la ville morte ou la peur d'être réprimé si l'on ouvre les commerces et le marché en pareille circonstance? André Kodmadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Mali, l'ADP Maliba, claque la porte de la majorité présidentielle. Il s'agit là d'un des tout premiers partis politiques à soutenir la candidature du président Ibeka en 2013 de Bamako, Kassim Traoré.
C'est désormais officiel. L'ADP Maliba n'est plus membre de la convention des partis politiques de la majorité présidentielle au Mali. Honorable Amadou Thiam, président de l'ADP Maliba.
Ce qui vient d'arriver suite à un processus démocratique que nous avons entamé au niveau du parti, et qui constatant l'éloignement de la majorité présidentielle de ses engagements politiques depuis 2013, et ses consensus nationaux ont permis aux militants de base de se prononcer. Ils se sont tous prononcés à l'unanimité pour un retrait pur et simple du parti ADP Maliba de la majorité présidentielle.
C'est un nouveau coup dur pour la majorité présidentielle qui n'arrive pas à porter la voix du président de la République.
Si nous devons rester ensemble, d'une même voix pour faire des propositions, et que cette CMP n'est pas organisée, elle n'arrive pas à établir un débat démocratique, et que cette CMP n'est pas concertée par l'exécutif, c'est une léthargie qui est là.
Selon les responsables du parti ADP, leur départ traduit un sentiment général de déception des Maliens face à la tournure que prend la gestion du pays.
En ce qui concerne le nouveau cap pour le parti, cela fera l'objet d'une conférence nationale. Au cours de quelle conférence nous allons pouvoir nous prononcer sur la nouvelle orientation politique. Tout ce qui pourrait s'en suivre, nous l'assumerons.
Depuis le mois de juillet, le parti a suspendu sa participation aux activités de cette mouvance présidentielle avant de claquer définitivement la porte. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les États-Unis ont demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer 4000 hommes supplémentaires à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, pour remédier à la situation sécuritaire de plus en plus inquiétante. L'AFP signale que le vote pourrait avoir lieu cette semaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU a condamné l'attaque survenue hier dans un hôpital du sud-ouest du Pakistan. Ban Ki-moon a estimé particulièrement épouvantable que cet attentat suicide qui a fait au moins 70 morts ait visé une foule en deuil. Jacques Aristide.
Le patron de l'ONU a exhorté le gouvernement pakistanais à faire tout son possible pour que les coupables soient traduits en justice. D'ailleurs, avant même cet appel de Ban Ki-moon, le Premier ministre avait vite condamné l'attentat et ordonné de nouvelles mesures de sécurité. Nawaz Sharif n'indiquait que son gouvernement ne laissera personne troubler la paix dans la province du Baloutchistan. L'attaque a été perpétrée par un kamikaze taliban qui a fait détonner sa charge explosive au milieu de 200 personnes environ, devant les urgences de l'hôpital civil de Quetta, capitale du Baloutchistan. Cette foule, qui comprenait nombre d'avocats et de journalistes, rendait hommage au bâtonnier de la province, assassiné quelques heures avant l'attentat. C'est Jamaatul Ahrar, une faction des talibans pakistanais, qui a revendiqué et l'attentat de lundi et l'assassinat du bâtonnier. Ce même groupe s'était attribué le carnage dans un parc pour enfants où une bombe avait tué 75 personnes lors du week-end de Pâques à Lahore. Le Pakistan est coutumier des attaques meurtrières après une décennie d'insurrection, mais la sécurité s'est nettement améliorée l'an dernier dans la foulée d'une vaste opération militaire.
En Syrie, il n'y aura pas de victoire rapide dans la bataille d'Alep si les combats perdurent, a prévenu hier l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Samantha Power, très inquiète du sort réservé aux civils. Jean-Roger Bion.
D'après les dires de Samantha Power au Conseil de sécurité, plus les combats dureront, plus il y aura des civils pris entre les deux camps, plus ils vont payer un lourd tribut. Hier, rebelles et régimes ont dépêché d'importants renforts en hommes et en armes à Alep et ses environs, en préparation d'une bataille cruciale pour le contrôle d'Alep, la deuxième ville de Syrie et dont l'issue pourrait constituer un tournant dans la guerre. Depuis le mois dernier, 250 000 personnes sont encerclées dans les quartiers à l'est après que les forces du régime eurent pris le contrôle de la dernière route d'approvisionnement dans une zone tenue par les rebelles. Ces civils affamés ou blessés manquent cruellement d'aide. Pour Samantha Power, les combats de ces derniers jours confirment que malgré le poids des forces du régime de Bachar al-Assad et de ses alliés, aucun camp ne sera capable de remporter une victoire rapide et décisive dans la bataille pour Alep.
À présent, le journal des Jeux Olympiques sur VOA Afrique avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour, Issa.
Nouvelle médaille africaine, c'est encore de la natation.
Oui, c'est encore l'Afrique du Sud. Cette fois-ci, c'est Tchad Leclos. Cette course du 200 mètres nage libre a été la scène d'une tactique assez particulière de la part du Sud-Africain. Tchad Leclos est parti comme une fusée, bouclant le premier 50 mètres avec 84 centièmes d'avance sur les bases du record du monde. Oui, mais voilà, il a rapidement faibli et laissé passer Song Yang, le Chinois, pour remporter la course. Chad Leclos n'a sauvé sa médaille d'argent que pour 0,03 de seconde face à l'Américain Conor Dwyer, finalement classé 3e.
Nouvelle journée difficile pour le continent africain hier à Rio.
On commence par les tatamis où la Sénégalaise Hortense Diédiou a été sortie dès son premier combat par la numéro 3 de la catégorie, la Néerlandaise San Verhagen. A noter que dans cette catégorie des moins de 57 kilos, la Brésilienne Silva a remporté l'épreuve en larmes puisqu'elle offre au pays organisateur sa première médaille d'or de ces Jeux Olympiques. Reportage à Rio de Thierry Kamboundi, de notre radio partenaire Top Congo FM.
Le Brésil tient la première championne de ces Jeux Olympiques. La judokate Rafaela Silva, 24 ans, a remporté lundi la première médaille d'or du pays hôte, récompense suprême qui couronne un parcours aussi extraordinaire qu'inédit. Née en 1992 à Rio de Janeiro, d'une famille pauvre, elle a grandi dans les favelas, bidonville brésilien. C'est là qu'elle intègre très jeune l'Institut Riaçao qui enseigne le judo aux enfants défavorisés. Très vite, elle s'illustre par son talent jusqu'à remporter en 2013, alors âgée de 21 ans, à Rio, sa ville natale, le titre mondial dans sa catégorie des moins de 57 kilos. 3 ans après ce titre mondial qu'aucun Brésilien n'avait avant elle arraché dans cette discipline, elle décroche à la surprise générale une nouvelle fois dans sa ville, Rio, la médaille d'or olympique en battant en finale la Mongole Soumya Dursuren, numéro 1 mondial, par Wazari au bout d'une minute de combat. Des favelas où elle est née et a grandi, Rafaela Silva devient aujourd'hui une super héroïne dans son pays et un exemple de plus que la pratique du sport peut révéler des enfants issus des conditions difficiles. Ces images en pleurs pendant des longues minutes dans les bras de son entraîneur, avec sa famille dans les gradins ou encore à l'exécution de l'hymne national brésilien avec sa médaille olympique sur le cou, qui ont tourné en boucle dans les médias brésiliens, en disent long sur le parcours unique de cette championne. De Rio, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada vem fácil, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão.
Les autres résultats de ce mardi en aviron. Avionne Akosiwa-Claire du Togo, classée 4e et dernière du 2e repêchage, avec un temps de 9 minutes 4 secondes et 76 centièmes. En handball, la belle victoire des Angolaises face au Monténégro, 27-25. Les Sénégalaises encore sévèrement battues dans le tournoi de basket, cette fois par la Chine, 101-64. Compte rendu de ce match avec l'envoyé spécial de VOA à Rio, Alvaro Andrade.
Les Sénégalais ne sont pas allés bien dans le jeu. Et aux 6 minutes, déjà perdu 11-0. Les Chinois ont reçu le jeu tandis que le Lyonnais ne pouvait pas arrêter les adversaires. L'entraîneur Mamadou Moustapha Gaye a essayé de déplacer l'équipe et Assou Traoré a réussi à faire 16 points tout au long du jeu, mais était insuffisante contre la supériorité des Chinois. La dernière étape a été dévastatrice pour le Lyonnais. La Chinois a réussi une avance de 37 points. Sénégal joue le mercredi contre le Canada, qui est la deuxième dans le groupe B. Rio de Janeiro, VOA Afrique, Alvaro Andrade.
À suivre ce mardi.
L'entrée en compétition sur 100 mètres nage libre de l'Ivoirien Thibaut Amani Dano et de l'Éthiopien Robel Kibos Apté sur les tatamis de Rio. Entrée en lice du Gabonais Paul Kibikai chez les moins de 80 kilos, c'est du judo. En handball, la Tunisie placée dans un groupe relevé affrontera le Danemark. Le Marocain Mohamed Arjaoui en boxe masculine dans la catégorie des moins de 91 kilos sera sur le ring. Quant à l'équipe kényane de rugby à 7, elle affrontera la Grande-Bretagne. En football, les Sud-Africaines joueront face au Brésil et les Zimbabwéennes contre l'Australie. Et puis Idriss a un coup d'œil sur le tableau des médailles. Les États-Unis toujours en tête grâce à la natation devant la Chine et l'Australie.
Un dernier mot sur le football, Nicolas.
Oui, on l'a annoncé hier, Idrissa, c'est fait, c'est officiel. Paul Pogba a été transféré de la Juventus de Turin à Manchester United. Après avoir passé la visite médicale en Angleterre, le montant estimé, tenez-vous bien, 120 millions d'euros. Le milieu de terrain français va retrouver un club qu'il avait quitté sur la pointe des pieds en 2012 avec un nouveau statut de star mondial.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La Minute Éco, ce matin, Jacques Aristide.
En Afrique du Sud, les ouvriers de trois centrales électriques de la société d'État Eskom ont entamé une grève hier pour réclamer de meilleures conditions salariales. Leur syndicat affirme que les négociations n'ont abouti à rien durant le week-end. Pour Eskom, il s'agit d'un arrêt de travail illégal. Hier, la compagnie indiquait que ses opérations n'avaient pas été affectées. Le Cameroun, noté pour la première fois par Moody's, l'agence américaine de notation a attribué au Cameroun une note de B2 pour ses obligations en monnaie locale et en devises étrangères. Il s'agit d'une notation mi-figue mi-raisin, car pour l'agence new-yorkaise, le Cameroun n'est pas à l'abri des risques découlant de la chute pétrolière, mais le pays peut également connaître une croissance grâce aux investissements dans les infrastructures. Les cours du pétrole ont nettement monté hier, encouragés à poursuivre le fort rebond technique engagé la semaine précédente par des annonces de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, qui a annoncé hier que ses 14 membres allaient tenir une réunion informelle fin septembre en marge d'un forum énergétique à Alger. Le cartel est toutefois resté flou sur les objectifs de cette réunion. La compagnie de téléphone américaine AT&T va payer 7,5 millions de dollars pour dédommager des clients indûment facturés de sommes qui servaient à financer des escrocs et des trafiquants de drogue, annonce hier de la Commission fédérale des télécommunications américaines. L'escroquerie a été découverte par l'agence de lutte contre le trafic de drogue lors d'une de ses enquêtes. Les abonnés se voyaient facturer sur leur relevé 9 dollars par mois pour un service d'annuaire, mais en fait, ce service n'existait pas et l'argent allait directement dans la poche d'escrocs et de trafiquants de drogue.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, rien ne certifie que le corps sans vie retrouvé ce week-end au centre du pays, dans un ravin d'une rivière, est celui du journaliste Jean Bigirimana, porté disparu le 22 juillet dernier. Le groupe de presse Iwachu, son employeur, a saisi la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour identification du corps, mais aucune suite favorable à cette requête. Eric Manirakiza a joint à Anvers, en Belgique, le directeur du groupe de presse Iwachu, Antoine Kabourahe.
On ne sait pas à l'heure actuelle si le corps découvert par les journalistes est celui de notre confrère Jean Bigirimana. Seulement, notre collègue a disparu dans cette zone-là, dans la zone de Bugarama, selon toutes les informations en notre possession et même en possession de la Commission nationale pour les droits de l'homme, qu'il a encore affirmé lors de son point de presse, Jean Bigirimana a disparu à Bugarama. Donc, par déduction, quand on nous a signalé ce corps-là, nous, on est allé vérifier. Sauf que les journalistes n'ont pas pu accéder vraiment au corps parce que il est très loin, dans une zone de ravin. Les journalistes n'avaient ni le matériel et même ni la technicité nécessaire pour identifier un corps qui, selon toute vraisemblance, avait passé beaucoup de temps dans l'eau. Ils ont essayé de faire des photos, des images avec des zooms, mais le corps est suffisamment loin pour être vraiment identifié avec certitude.
Est-ce que le corps est toujours au même endroit? Ça fait quand même plusieurs temps.
Je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence parce qu'il y a encore, dans un ravin, un citoyen qui a été tué et jeté là. Ce citoyen peut être notre journaliste ou quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, je pense que cette personne mérite une sépulture digne.
Quel serait le mobile de la disparition du journaliste Jean Bigirimana? Est-ce qu'il travaillait sur un dossier quelconque sensible?
Non, Jean Bigirimana venait de nous rejoindre. Il était vraiment relativement nouveau dans le groupe de presse Iwachu. Je ne sais pas. On s'interroge. C'est un garçon intègre, travailleur, qui ne parlait pas beaucoup. Moi, j'avais eu l'occasion de le rencontrer et ça me fait beaucoup, beaucoup de peine parce que c'est un garçon qui suscitait l'admiration par son sérieux et aussi par son amour du travail.
Antoine Kabourahe, directeur du groupe de presse Iwachu. Près de 1000 Nigériens en situation irrégulière en Algérie sont depuis quelques jours à Tamanrasset, localité algérienne proche de la frontière nigérienne, d'où ils vont être rapatriés dans leur pays d'origine. Ce rapatriement se fait dans le cadre d'un accord entre les deux pays, a assuré au micro de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, le préfet d'Arlit, Alat Mogaskia.
C'est le 43e convoi qui est en cours de constitution à Tavanrasset. Pour le moment, on a parlé de 1019 arrivés à Tavanrasset. À l'issue des identifications, on verra combien seront réellement réfugiés.
Tous ces 1019 sont voilà. Des Nigériens.
Non, je ne sais pas. Et l'identification qui va être prouvée.
Ce sont des Nigériens qui sont en situation irrégulière sur le territoire algérien, qui sont en train d'être rapatriés, c'est bien cela.
On présume, mais je vous dis, en fin de l'opération, on saura qui est Nigérien, qui ne l'est pas. C'est arrivé qu'il y ait quelques individualités des autres pays de l'Afrique de l'Ouest et qui profitent pour voyager avec les Nigériens. On a noté quelques cas, mais c'est rarement une, deux, trois personnes. Si elle veut, elle voyage avec les Nigériens. Mais l'opération proprement dite avec les autorités concerne les Nigériens. Maintenant, nous avons noté un dernier cas, des Maliens en nombre qui ont quitté hier ici à destination de leur pays. Ils étaient 433.
On imagine que vous êtes en communication avec les autorités algériennes. Est-ce qu'ils vous ont avancé les raisons donc, de ces rapatriements massifs, puisque vous dites que c'est le 44e cas?
Non. Ça, c'est d'État à État. C'est d'État à État. Les préfets qui ne sont que facilitateurs de la mise en œuvre de l'opération. Mais c'est d'État à État.
Donc vous dites s'ils arrivent au niveau de la localité d'Arlit, ils seront pris en charge par l'OIM. Comment se fait cette prise en charge?
Bon, ça c'est des accords aussi, c'est dans la convention. C'est organisé entre l'État du Niger et l'État d'Algérie. Quand ils viennent, nous veillons à ce que la convention par OIM est respectée et c'est tout. Et nous mettons les forces de sécurité pour les exporter.
Cela semble récurrent. Quel commentaire vous avez à faire par rapport au déplacement massif des Nigériens vers des pays étrangers et sans se mettre en règle vis-à-vis des lois de ce pays?
C'est général, hein? C'est général de mouvement en Afrique de l'Ouest. Et puis, depuis qu'il y a eu la situation d'insécurité au Nigeria, tous ceux qui partaient vers le Nigeria se sont retournés vers le nord. Je pense que ça qui explique ces derniers temps qu'il y a des mouvements en vague. Mais il a de tout temps existé, sans prendre la proportion que nous observons actuellement.
Le préfet d'Arlit, Alat Mogaskia, au micro de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En prélude au sommet Afrique-France que le Mali doit accueillir en janvier 2017, Bamako doit faire peau neuve. À cette fin, les autorités administratives de la ville ont engagé une opération d'assainissement des voies publiques. Reportage de Kassim Traoré.
Débutée le 21 juillet 2016, l'opération d'assainissement des voies publiques de Bamako a des objectifs bien précis selon le gouverneur de la capitale malienne, Sako Amikane.
Il s'agit de libérer les voies et les domaines publics parce que Bamako, tout le monde sait maintenant qu'il n'y a plus de passage pour les piétons ni pour des véhicules. Tout le monde est mélangé. Donc c'est la raison qui nous a poussé à mener cette opération pour assainir Bamako, rendre Bamako son nom d'antan.
Puisqu'il s'agit d'assainir la ville de Bamako, certains occupants des voies publiques n'ont pas posé de problème, comme Seiba Keita, gérant d'un restaurant à la rue Princesse de Bamako.
On a tout enlevé, on a tout cassé, on a tout ramassé nous-mêmes. Non seulement on a cassé, mais on a tout ramassé. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'on veut assainir Bamako, on veut élargir la route, on veut que les fossés soient dégagés.
Les incompréhensions sont nées aux alentours de certains grands marchés de la capitale, où les forces de l'ordre ont été obligées de faire usage des gaz lacrymogènes. Cheikh Oumar Djabi, coordinateur de commerçants détaillants du marché du
On a simplement demandé à la police de donner un peu de temps aux déguerpis d'enlever leurs marchandises. Ils n'ont pas voulu et ils ont commencé à affronter, à lancer des gaz partout, créer une insécurité en ville pour rien du tout. Et cette situation, on le regrette.
Le gouverneur a déploré les échauffourées de la journée du 30 juillet passé, qui a occasionné 5 blessés,
dont un grave qui est hospitalisé actuellement. Sako Amikan, gouverneur du district de Bamako.
C'est pas fait dans ce dessin. Nous n'avons jamais pensé que ça allait dégénérer comme ça, compte tenu du fait que tous les acteurs ont été consultés et que tout le monde était d'accord.
Face à la colère, les responsables des différents marchés de Bamako se sont mis en coordination pour dénoncer l'usage de la force et exiger l'arrêt des démolitions. Bamba Kanadjigi, de la coordination des commerçants détaillants de Bamako.
Que les plus hautes autorités prennent les dispositions pour mettre fin à ces opérations de déguerpissement en attendant que nous puissions avoir un cadre adéquat de concertation et de discussion.
Déjà, les élus de la nation ont écouté le gouverneur, les commerçants détaillants, les maires des 6 communes du district de Bamako. Des ministres aussi doivent être écoutés avant la synthèse et les recommandations qui seront soumises aux plus hautes autorités. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
C'est l'heure de parler politique américaine sur VOA Afrique à moins de 3 mois de la présidentielle de novembre. On retrouve Nathalie Barge.
Lors de son discours au Club économique de Détroit, Donald Trump a insisté sur la réduction des taxes des particuliers et entreprises, tout en réaffirmant vouloir supprimer Obamacare.
Je propose une réduction générale d'impôts, en particulier pour les Américains à revenus moyens. Cela conduira à des millions de nouveaux emplois très bien rémunérés. Les riches paieront leur juste part. Même personne ne paiera au point de supprimer des emplois ou de saper notre aptitude à la concurrence en tant que nation.
Monsieur Trump n'a toutefois pas expliqué comment il financerait son ambitieux plan de baisse d'impôts, si ce n'est par une hausse supposée de la croissance. « Je veux que les emplois et la richesse restent en Amérique », a-t-il lancé devant les entrepreneurs de Détroit, grand centre de l'industrie automobile américaine. Il n'a pas manqué de s'en prendre à sa rivale Hillary Clinton, notamment à travers des accords commerciaux américains, dont le partenariat transpacifique signé entre 12 pays le 4 février, affirmant que la candidate démocrate soutiendra finalement le pacte, même si elle a déclaré y être opposée. La candidate démocrate Hillary Clinton, qui présentera son programme économique également à Détroit jeudi, n'a cependant pas attendu pour rétorquer à son adversaire en réitérant que Donald Trump allait offrir des super grandes réductions d'impôts aux riches. En campagne à Saint-Pétersbourg, en Floride, elle s'est également concentrée sur la question économique, notamment en rappelant des chiffres.
9 millions d'Américains ont perdu leur emploi. Je parie que vous connaissez tous quelqu'un. 5 millions de foyers ont perdu leur maison. Et je sais que les gens sont inquiets de savoir si eux et leurs enfants peuvent avoir le genre d'avenir que nous pouvons espérer ici, en Amérique.
Mais dans cette campagne, les deux poids lourds, Clinton et Trump, sont confrontés, à une moindre mesure, à d'autres candidats, dont Jill Stein et Gary Johnson. Hillary Clinton n'est pas la solution à Donald Trump, a déclaré samedi soir à Houston Jill Stein, en acceptant l'investiture du Parti vert. Selon un sondage Washington Post ABC News, Mme Stein est créditée de 4% des intentions de vote. Elle veut instaurer une sorte de RMI, stopper le changement climatique et réduire les dépenses militaires d'au moins 50%. Quant au candidat libertaire Gary Johnson, qui souhaite atteindre 15% des intentions de vote en septembre, il est jusqu'ici crédité de 8% par le même sondage. Ces candidatures s'ajoutent cependant aux centaines d'autres déposées auprès de la Commission fédérale électorale. Pour apparaître sur les bulletins de vote, les candidats doivent s'inscrire auprès des autorités des 50 États et la plupart des dates butoirs sont fixées en août et septembre.
Dans Washington Forum ce jeudi, on vous emmène à Rio où se sont ouverts les Jeux Olympiques d'été. Dans un climat sociopolitique tendu, le Brésil relève le défi d'accueillir ces 2 semaines de compétition de haut niveau. Malgré les questions de sécurité, pour l'heure, la fête semble réussie. Mais sur le plan sportif, comment faire fi des scandales de dopage à répétition qui frappent les plus grandes nations sportives? Inédit aussi la participation d'athlètes réfugiés, mais quelle égalité avec les autres sportifs? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.